13-14, Marion Lourd.
Bonjour à tous, bienvenue dans le 13-14 en direct aujourd'hui d'une exploitation laitière d'essai en Ille-et-Vilaine. La Bretagne, réservoir de lait de la France. C'est la première région productrice, elle a perdu un quart de ses élevages en 10 ans. Et la période est particulièrement tendue en ce moment puisque les industriels et les supermarchés sont dans la dernière ligne droite des négociations sur les prix. Avec cette nouvelle loi Egalim 2 censée garantir une juste rémunération aux éleveurs, pour le moment on n'y est pas du tout, explique l'exploitant de cette ferme, Charlotte Kernoglou.
On est toujours la variable d'ajustement. On est obligé soit d'arrêter de se rémunérer, soit de ne pas payer nos fournisseurs.
Charlotte Kernoglou et son associé qui nous accueillent aujourd'hui, on les retrouvera un peu plus tard. Que disent les acteurs de cette filière et plus largement, comment garantir un revenu décent aux agriculteurs sans grever le budget des consommateurs? Comment relancer les vocations dans l'agriculture et assurer la relève? On en parle jusqu'à 14h en reportage et avec nos invités ici à Essé en Bretagne. Mais d'abord, les grands titres de l'actualité de ce jeudi. Et c'est avec vous Frédéric Barrère, bonjour.
Bonjour Marion, bonjour à tous. Et nous irons à Pékin pour les Jeux Olympiques d'hiver. Et déjà une bonne nouvelle pour le ski de bosse français. Perrine Laffont, championne olympique en titre, s'est qualifiée pour la finale de dimanche. Nous suivrons également la flamme olympique sur la Grande Muraille de Chine à 24 heures de la cérémonie d'ouverture à Pékin. L'inquiétude toujours à la mi-journée à La Réunion où le cyclone Batsirai dans l'océan Indien reste aux portes de l'île. Le cyclone se déplace très lentement, les habitants restent confinés chez eux, mais on a évité le pire. Un nouveau carnet de santé numérique lancé aujourd'hui, un carnet en ligne regroupant tous les examens médicaux des 65 millions d'assurés sociaux. Et puis à l'Assemblée nationale, les députés MoDem présentent une série de textes pour revitaliser la démocratie. Enfin, les travailleurs essentiels organisent aujourd'hui une marche à Paris pour une meilleure reconnaissance de leur métier.
Et juste avant 14h, nous irons à quelques kilomètres à La Roche-aux-Fées découvrir un Fab Lab. Dans ce laboratoire, entreprises et particuliers ont à leur disposition découpeuses laser et imprimantes 3D pour fabriquer des produits ou simplement réparer leurs machines à laver. Le 13-14 en Ille-et-Vilaine, vous avez le menu, c'est parti.
France Inter, le 13-14.
Et on démarre donc cette émission en Ille-et-Vilaine, au sud de Rennes, sur la ferme des producteurs laitiers Charlotte Kernoglou et Christophe Mélier, convertis au bio il y a 4 ans. Nous sommes un peu sur les hauteurs, vus sur les prairies, les arbres, le ciel gris. À côté de nous, une soixantaine de vaches Primolstein de tous âges. L'une d'elles est une senior de 13 ans, c'est rare quand on sait que la durée de vie de ces animaux dans une exploitation classique n'atteint que quelques années. Bonjour Kathleen Comte.
Bonjour à tous.
Vous suivez les sujets d'agriculture à France Inter. On le disait, Charlotte et Christophe produisent du lait bio. En ce moment, ils subissent donc la hausse des coûts de production, mais aussi le problème de surproduction. Trop de lait bio pour une demande qui baisse. Comme tous les agriculteurs et notamment les producteurs de lait, Charlotte et Christophe suivent attentivement en ce moment les négociations entre industriels et grandes distributions qui doivent s'achever à la fin du mois. Elles déterminent rien moins que leurs revenus et donc leurs conditions de vie de ces éleveurs qui sont le premier maillon de la chaîne. Chaîne que vous avez suivie pour nous, Kathleen Comte, du producteur au consommateur.
Maillon numéro 1 de la chaîne, l'éleveur ou plutôt l'éleveuse Charlotte, 34 ans, produit environ 1000 litres de lait bio par jour qu'elle vend 420 euros, soit 42 centimes le litre, insuffisant pour assumer ses charges.
Pour avoir une rémunération correcte et réussir à payer mes fournisseurs et mes factures, il me manque 8 centimes pour l'année. Donc 8 centimes sur un volume de 300 ml de lait, ça fait 24 000 euros, tout simplement.
Charlotte vend son lait exclusivement à Biolay, une organisation qui regroupe 2500 éleveurs, dont Isabelle Petitpas, administratrice de Biolay pour Ille-et-Vilaine.
La constitution du prix chez Biolay, elle se fait à chaque début de nouvelle année, suivant les contrats que nous avons en bio, évidemment. On a une moyenne sur l'année et effectivement, mois par mois, ça peut varier.
Biolay achemine le lait des producteurs vers différents sites de transformation. Des camions viennent donc le collecter une fois tous les trois jours. Le litre de lait vendu par Charlotte, 42 centimes, est revendu par Biolay à 57 centimes. Il prend ensuite la direction du Loiret où se situe LSDH, la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel, troisième maillon de la chaîne qui met en bouteille. Emmanuel Vasnex, président de LSDH.
On vient mettre une bouteille dessus, on vient mettre une étiquette sur la bouteille, on vient mettre un bouchon, une poignée, et puis ensuite on va devoir conditionner ces produits-là sur les palettes avant de les livrer. Donc le coût en fait finalement de cette prestation qui correspond aussi à la rémunération des collaborateurs qui travaillent dans les usines est de l'ordre d'une trentaine de centimes qui est ajouté sur le produit par rapport au prix du litre de lait payé au producteur. Et la période est, je vous l'avoue, un peu tendue.
Car le coût des matières premières, flambe, plastique, carton, essence, électricité, le litre de lait acheté 57 centimes ressort de la laiterie à 80 centimes. C'est là qu'entre en jeu le quatrième maillon de la chaîne, Système U, plus gros client de LSDH. Le distributeur ajoute ses propres charges. Résultat, quand Charlotte va faire ses courses à Janzé, la commune à côté de chez elle, elle retrouve le litre de lait bio demi-écrémé UHT à 99 centimes.
Un reportage Kathleen Comte. Frédéric David, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éleveur également à Domagné. Vous dirigez la section lait du syndicat FDSEA pour l'Ille-et-Vilaine. On l'entendait hein, dans le reportage de Kathleen Comte. Chacun prend sa part en fait dans la création de richesses tout au long de la chaîne du lait. Alors quelle part, c'est ce qui est en train d'être déterminé en ce moment par les négociations commerciales. Il y a une loi, une nouvelle loi qui est censée garantir des rémunérations correctes, notamment aux producteurs. Elle est très tendue cette négociation aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous, professionnels, on est au contact de des acheteurs de la grande distribution pour justement essayer de trouver les règles leurs règles de calcul. Nous, en tout cas, depuis des années, on revendique un prix rémunérateur. Et ce prix rémunérateur, aujourd'hui, ils ne doivent pas l'éviter. Il est urgent aujourd'hui que les éleveurs puissent toucher un prix.
Les négociations, elles se terminent à la fin du mois. Est-ce que vous avez prévu, vous, FDSEA, syndicat agricole, des actions pour essayer de vous faire entendre ?
Oui, tout à fait. Non seulement on reste au contact de la grande distribution, comme je vous ai expliqué, mais aussi on engage dès demain des cortèges dans Rennes pour aller mobiliser les consommateurs, pour sensibiliser les consommateurs. Donc on va aller au contact dans la grande distribution et en partant déjà des transformateurs, mais on finira avec les engagements et les promesses de M. Macron au niveau de la préfecture.
Une réponse en un chiffre seulement. Quel prix vous espérez pour le lait ?
Nous, en conventionnel, faut parler en conventionnel. Nous, on espère.
Donc pas bio ?
Ben oui, c'est deux laits différents. On est à 405 euros aujourd'hui réclamés.
Donc 45 centimes le litre. C'est ça ?
Non, 40,5.
Premier regard sur cette exploitation laitière d'essai. On vous retrouve tout à l'heure, Frédéric David, avec nos autres invités. La suite dans une vingtaine de minutes. En attendant, Frédéric, c'est l'actualité du jour. La flamme olympique qui poursuit son périple en Chine.
Oui, l'image du jour, la flamme olympique sur la grande muraille de Chine à la veille du jour J. Et dans un froid glacial et ensoleillé, les relayeurs de la flamme, dont plusieurs vedettes, ont escaladé les marches de la grande muraille. Le symbole chinois par excellence, sur place, Sébastien Berriot. Moins 10 degrés au pied de la Grande Muraille de Chine. Après avoir escaladé les marches, la flamme arrive juste pour le lever du soleil. C'est la carte postale que les télévisions chinoises attendaient. Mais sans les spectateurs qui manquent à l'appel, le grand public n'a pas été convié pour cause d'épidémie. La vedette du jour, c'est l'un des porteurs de la torche, l'acteur et cascadeur chinois connu dans le monde entier, Jackie Chan.
Je suis si chanceux, si excité et si fier de porter la torche. Je peux ainsi apporter ma contribution au pays. J'espère que nos athlètes gagneront plus de médailles, notamment dans les épreuves où ils participent pour la première fois.
Autre vedette à transmettre la flamme, le champion chinois de tennis de table, Ma Long, 5 fois médaillé d'or aux JO.
Même si moi je participe à des JO d'été, je suis heureux d'aider ces Jeux Olympiques d'hiver en tant que porteur de la torche. Depuis les temps anciens, celui qui n'arrive pas à la Grande Muraille n'est pas un héros. Cette fois, j'ai porté la torche jusqu'à la Grande Muraille, je suis un héros.
La Chine va profiter du parcours de la torche pour montrer son savoir-faire en matière d'intelligence artificielle. Avant d'arriver à la cérémonie d'ouverture, demain, la flamme montera à bord d'une voiture sans conducteur, de fabrication évidemment chinoise. À la Grande Muraille de Chine, Sébastien Berriot, France Inter. Des Jeux de Pékin marqués par la menace de l'épidémie de Covid et des tensions diplomatiques avec un invité au centre de la tension mondiale actuellement. Le président russe Vladimir Poutine sera présent à la cérémonie d'ouverture, mais avant cela et au cours d'une intense journée diplomatique sur la crise ukrainienne, plusieurs visioconférences vont avoir lieu aujourd'hui. Emmanuel Macron s'entretiendra avec Vladimir Poutine, puis avec le président polonais Duda, mais aussi avec le président ukrainien Zelensky. On reste en Chine, à Pékin, avec cette bizarrerie des JO pour des questions de calendrier, des épreuves et de temps de repos des athlètes. La cérémonie d'ouverture n'aura lieu que demain, à 13h, heure de Paris, 20h locale, mais les premières épreuves ont déjà débuté, le curling hier soir et le ski de bosse ce matin, qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. Bonjour Xavier Monferrand.
Bonjour Frédéric.
En direct de Pékin, notre championne olympique en titre, Perrine Laffont, a attaqué ce matin les qualifications avec le rôle de favorite et elle s'est qualifiée.
Ouais, c'est un train qui arrive à l'heure et sans accroc, mais dans le monde ultra compétitif de l'olympisme, c'est un luxe, un vrai. Perrine Laffont avait la pression, c'est elle, la reine des bosses, la championne en titre. 4 ans après son sacre à Pyeongchang, Pépette n'a pas tremblé, comme on l'appelle l'ariégeoise, a pris la 2e place donc des qualifications, juste derrière sa grande rivale, l'Australienne Jacara Anthony. La Française est donc en finale, grâce à un premier passage convaincant sur la piste de Zhangjiakou, et ce malgré un froid polaire, à moins 19 en bas de la piste de bosse. Perrine Laffont avait le sourire masqué.
Ouais, à travers le masque, vous pouvez pas le voir, mais ouais, je suis satisfaite. Voilà, c'est un bon soulagement ce premier run. Ça me permet d'aller directement en finale et avec un beau score aussi, donc ça fait du bien. En plus de ça, je partais avant-dernière là, donc c'était vraiment long. J'étais au départ, j'avais qu'une envie, c'était d'y aller. Donc voilà, là ça lance bien les choses et ça fait du bien.
4 ans après, les choses ont changé pour Perrine Laffont. La Française n'est plus incontestée dans sa discipline, la relève est déjà là, mais elle peut savourer. Parce qu'il y a un mois, la Française chutait lourdement en pleine finale en Coupe du Monde à l'Alpe d'Huez. Une commotion cérébrale, des côtes touchées et pourtant donc, elle sera bien là au départ dimanche pour aller chercher, pourquoi pas l'or.
Xavier Monferrand en direct de Pékin avec Sandrine Malon, merci.
13h11 sur France Inter, suite de l'actualité à la mi-journée avec toujours l'inquiétude à La Réunion où les habitants restent confinés chez eux à cause du cyclone Batsirai.
Et le pire a été évité selon Erika Barreit, la maire de Saint-Denis de La Réunion. Mais l'épisode dure. Le cyclone tropical Batsirai est stationnaire. Il reste aux portes de La Réunion. Bonjour Mathilde Demy.
Bonjour Frédéric.
On déplore 12 personnes blessées et intoxiquées au monoxyde de carbone, des rafales de vent allant jusqu'à 150 km/h, beaucoup de pluie et une mer effrayante.
Oui, et Batsirai prend son temps. Le cœur du cyclone est toujours à peu près à 200 km des côtes. Il a encore ralenti, avançant seulement de quelques kilomètres par heure, avec des conséquences importantes pour les habitants. Ghislain Faure est ingénieur à Météo France.
Le fait qu'il ait ralenti et qu'il soit lent, ça va provoquer des pluies soutenues pendant plus longtemps. Et donc potentiellement plus de dégâts et des inondations.
Et c'est pour cette raison que le préfet maintient l'alerte rouge, même s'il y a pour l'instant peu de dégâts et que par endroits les vents sont tombés. Il ne faut surtout pas négliger l'arrière du cyclone, explique Ghislain Faure.
Dans le cas d'un cyclone, il y a ce qu'on appelle des bandes spiralées, donc des formations nuageuses très loin du centre, à plusieurs centaines de kilomètres, qui peuvent amener des pluies.
La montagne a protégé jusqu'à présent certaines zones qui pourraient se trouver de nouveau sous les bourrasques et la pluie. Le maire de Saint-Pierre, 86 000 habitants au sud, Michel Fontaine, surveille donc les radiers, les rivières.
Je vous ouvre la vitre pour que vous entendiez un peu ce qui se passe à l'extérieur et ça souffre quand même pas mal. Le problème, c'est surtout des ravines. On craint beaucoup les crues parce que ça déboule très vite. Hein. La terre étant complètement gorgée d'eau parce qu'il pleut déjà depuis un moment et va continuer véritablement à pleuvoir.
Une 50aine d'arbres sont tombés à Saint-Pierre. En tout, 42 000 foyers sont toujours privés d'électricité, coupures d'eau et de téléphone également. Tous les habitants doivent toujours rester confinés. La police a arrêté plusieurs automobilistes sur les routes.
Mathilde Dehimy, et ce cyclone Batsirai fait partie des événements météorologiques extrêmes, ces catastrophes météo qui ont tué plus de 140 000 Européens en 40 ans, selon une étude publiée aujourd'hui par l'Agence européenne de l'environnement. Ces événements comme les inondations ou les canicules sont amenées à se multiplier dans les années à venir sous l'effet du dérèglement climatique. Et en Europe, 3 pays ont déjà payé un lourd tribut à ces catastrophes, Célia Kiré.
L'Allemagne avec 42 000 morts en 40 ans, la France avec près de 27 000 décès et l'Italie, plus de 20 000 également, sont les pays les plus concernés par cette surmortalité climatique. Et l'événement le plus marquant est la canicule de 2003. Elle a provoqué à elle seule 80 000 décès dans une trentaine de pays européens. C'est plus de la moitié des morts comptés dans cette étude. Les canicules suivantes ont d'ailleurs été moins meurtrières car les pays ont commencé à mieux protéger la population. Les inondations ont coûté très cher aux pays européens, au moins 200 milliards d'euros, mais elles ont causé moins de décès que la canicule. Or, les sécheresses devraient s'intensifier à l'avenir dans la plupart des régions d'Europe, pas seulement en Méditerranée, selon les chercheurs. Les assureurs doivent donc en tenir compte. À l'échelle mondiale, le bilan est bien plus inquiétant. Près de 500 000 personnes sont mortes en 20 ans à cause de ces événements climatiques extrêmes qui affectent surtout les pays pauvres, comme la Birmanie ou Haïti. Or, l'ONU estime que les fonds nécessaires pour aider les pays à s'adapter sont nettement insuffisants.
Un nouveau carnet de santé numérique pour tous.
Oui, lancé aujourd'hui, ce carnet de santé en ligne va être proposé aux 65 millions d'assurés sociaux. Depuis 15 ans, les pouvoirs publics tentent d'équiper les Français d'un carnet de santé numérique regroupant tous leurs examens médicaux. Chaque fois, ces initiatives se sont soldées par un échec. Nouvelle tentative aujourd'hui, l'assurance maladie et la délégation numérique en santé dévoilent en présence d'Olivier Véran Mon Espace Santé. Bonjour Anne Orenstein.
Bonjour Frédéric.
Alors concrètement, qu'est-ce que l'on va trouver dans ce carnet de santé?
Mais tout votre parcours de santé, ou presque. Dès à présent, vous allez pouvoir remplir votre dossier médical. Alors pour faire ça, vous reprenez votre vieux dossier papier avec toutes ces feuilles volantes et vous allez écrire avec vos mots tout ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, vous avez été opéré des dents de sagesse en 1999. Vous le notez. Vous avez fait une allergie à un médicament en 1985. Vous écrivez ce que vous avez fait comme réaction. Vous avez aussi des résultats de biologie qui se baladent. Vous pouvez les prendre en photo et les rajouter. Vous pouvez aussi décrire vos antécédents familiaux ou encore les médicaments que vous prenez. C'est très facile à faire sur le site, mais c'est sans doute un petit peu fastidieux. Quant à ceux qui avaient déjà un dossier médical partagé, ils vont retrouver les données qui y étaient stockées.
Et qui, Anne, alors, va pouvoir accéder à ce document?
C'est vous qui décidez de donner ou non accès aux professionnels de santé. Et d'ailleurs, quand ils seront tous équipés, leurs documents seront mis automatiquement dans votre coffre-fort numérique. Ils pourront aussi communiquer directement avec vous via une messagerie sécurisée. Dans le courant de l'année, vous y retrouverez aussi un agenda santé et des applications partenaires, par exemple pour mesurer votre rythme cardiaque, votre activité sportive ou pour vous proposer des menus adaptés.
Et d'ici fin mars, Anne, tous les assurés sociaux recevront un mail ou un courrier pour s'inscrire sans action de votre part dans les 6 mois. L'inscription sera automatique et la mesure concerne aussi les enfants.
Dans les 6 semaines.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Dans les six mois.
C'est un peu long. Les 6 semaines, bien sûr. Alors, concernant le pass vaccinal, nouveau changement de règles. Les personnes ayant reçu 2 doses de vaccin, puis infectées par le Covid, n'auront plus d'obligation à recevoir une 3e dose pour conserver leur pass vaccinal. La règle devient véritablement une injection égale une infection. Pour bénéficier du pass vaccinal, il faut que le système immunitaire ait été stimulé au moins 3 fois, a indiqué Olivier Véran. Le ministre de la Santé a également déclaré concernant la 5e vague de l'épidémie, le pire est derrière nous et le ministre de la Santé a aussi envisagé la fin du pass vaccinal avant la fin du mois de juillet. Olivier Véran est donc plutôt optimiste et l'OMS indique ce matin que l'Europe connaît un répit comparable à un cessez-le-feu face au Covid. Grâce au niveau actuel de vaccination et la moindre sévérité d'Omicron, la branche européenne de l'OMS estime que ce répit, comparable donc à un cessez-le-feu en Europe, pourrait mener à la fin de l'épidémie de Covid-19. La politique et la présidentielle qui bat son plein avec un rendez-vous aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les députés Modem profitent de leur niche parlementaire pour remettre dans le débat leurs propositions pour revitaliser la démocratie, une réforme des institutions qui restait dans les cartons pour cause d'affaires Benalla, puis de Covid. Et depuis ce matin, on parle du retour du conseiller territorial, de la participation citoyenne ou du vote par correspondance. Bonjour Yael Gauz.
Bonjour Frédéric.
Et les discussions portent aussi sur le scrutin proportionnel aux législatives.
67 votants, 65 suffrages exprimés. La majorité est à 33 pour 65 contre 0. La proposition de résolution est donc adoptée à l'unanimité.
Unanimité des députés, c'était vers 11h ce matin, Frédéric, pour inviter l'exécutif à réfléchir à l'instauration d'une dose de proportionnelle pour 2027. Une simple résolution, les marcheurs ont limité au maximum les ardeurs de leurs collègues Modem. Pas de grand soir, ce sera pour plus tard, car parmi les sujets discutés, seuls 2 peuvent avoir force de loi, notamment le vote par correspondance, abandonné depuis 1975. Aucune chance qu'il soit adopté, car les marcheurs vont voter contre. Ils ont tort de négliger ce chantier, prévient le patron des députés Modem, Patrick Mignola.
Contrairement à ce qu'on pense, la forme institutionnelle, l'organisation de la vie démocratique doit être au cœur de nos priorités. On ne peut pas rester dans une situation où notre organisation démocratique, celle que nous avions il y a 50 ans, avant le Minitel, alors qu'aujourd'hui on est à l'heure des chaînes d'information continue, d'Internet et des réseaux sociaux.
Dans la niche du jour, on trouve aussi le conseiller territorial, la parité dans les scrutins de liste pour toutes les communes, une discussion très symbolique finalement, pour prendre date, car l'Assemblée ferme bientôt ses portes le 27 février. On se rattrapera, promet le député LaREM, Gilles Legendre.
C'est un chantier que nous n'avons pas pu conduire à bien, mais que ce n'est en rien une raison pour l'abandonner. Parce que notre pays a instamment besoin de repenser son fonctionnement démocratique.
Une priorité affichée en 2007, mais qui ne passionne plus les stratèges d'En Marche en 2022. Lors du dernier porte-à-porte à l'automne, le sujet n'est pas ou peu remonté. Seule promesse à ce stade, Frédéric, le recours au vote électronique aux prochaines européennes, mais en 2024.
Yael Gauz, merci. Les travailleurs essentiels organisent une marche aujourd'hui à Paris. Environ 300 personnes ont défilé ce matin. Ces salariés qui ont continué à travailler pendant la crise sanitaire et les confinements répondent à l'appel de la CFDT. Ces travailleurs dont les activités ont permis à la France de tourner alors que tous les autres secteurs étaient à l'arrêt demandent une meilleure reconnaissance de leur métier et donc de meilleures conditions de travail et de salaire. Olivier Louchard travaille dans un abattoir porcin en Bretagne. Il est au micro de Luc Chemla.
On est dans la viande, on nous a dit qu'on était essentiel parce qu'on servait à nourrir les Français. Pendant les périodes de confinement, les gens venaient travailler dans l'abattoir avec en plus la peur au ventre d'être contaminé. Et on n'est pas reconnu pour cet effort-là. Maintenant, en plus, il y a eu au mois d'octobre une augmentation du SMIG. On se retrouve maintenant avec des salaires en bas de niveau qui sont rattrapés par le SMIG. C'est-à-dire que des gens commencent à 5h le matin, dans le froid, dans des cadences soutenues, pour gagner à peine plus que le SMIG. Donc c'est complètement insupportable et inconcevable.
Qu'est-ce que vous attendez donc là? Aujourd'hui, c'est quoi? C'est une hausse de salaire?
Alors, pas uniquement. Il y a ensuite derrière la reconnaissance de nos métiers, d'avoir un parcours professionnel avec des formations qui permettent d'évoluer dans l'entreprise. Là, à l'heure actuelle, il n'y en a pas. Donc, ce qu'il y a besoin, c'est d'avoir un métier qui soit attractif. Si demain, je vous dis, est-ce que vous voulez bien que votre petit frère vienne travailler dans un abattoir? Ça va vous faire drôle. Donc, l'agroalimentaire a du mal à recruter. Eh bien, il faut que les employeurs se regardent en face et assument leurs responsabilités.
Olivier Louchard, salarié dans un abattoir porcin en Bretagne. Et puis, cette information, Marion, pour terminer, des chercheurs australiens affirment avoir retrouvé l'épave du célèbre navire du capitaine James Cook, l'Endeavour, qui avait coulé au large des côtes américaines et de Rhode Island, entre New York et Boston. L'Endeavour, à bord duquel l'explorateur britannique a effectué un voyage historique depuis l'Angleterre vers Tahiti, la Nouvelle-Zélande, depuis l'Australie, avait coulé en 1778. Les chercheurs américains, partenaires des Australiens, estiment que l'annonce est un peu prématurée, mais les Australiens se disent sûrs de leur découverte.
Merci Frédéric Barret. On s'éloigne un peu de la mer. Hein. On arrive dans les terres bretonnes à Essé, en Ille-et-Vilaine. La météo dans un instant.
Au terme du Mont d'Or, à l'air pur d'Auvergne, nous prenons soin de vos articulations, de vos troubles respiratoires, de votre santé. Chaîne thermale du soleil, prendre soin de vous, c'est notre métier.
Le Grand Monde, c'est le nouveau grand roman de Pierre Lemaitre. La famille Pelletier, trois histoires d'amour, un lanceur d'alerte, une adolescente égarée, un journaliste ambitieux, une mort tragique, le chat Joseph, une actrice incognito, cet imbécile de Douairy, grosse promotion sur le linge de maison, un parfum d'exotisme, une passion soudaine et irrésistible. Et quelques meurtres. Le Grand Monde, le nouveau grand roman de Pierre Lemaitre, aux éditions Calmann-Lévy.
Il fait gris sur l'Ille-et-Vilaine, gris mais pas trop humide hein, pour l'instant, et tant mieux car nous sommes les pieds dans la terre dans notre exploitation laitière d'Essé au sud de Rennes. Faisons le point sur la météo dans le reste du pays.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Et le gris est une couleur bien partagée aujourd'hui, sauf sur le sud-est.
Oui, exactement. Sur toutes les régions du nord, on a souvent un ciel gris, sur le sud-ouest également. En prime, on a quelques pluies éparses qui peuvent circuler de la Bretagne vers la Normandie, les Hauts-de-France, avec un petit vent de sud-ouest. Sur les Pyrénées, près de la Méditerranée, du massif central aux Alpes jusqu'au Jura, là c'est plus agréable avec un soleil parfois voilé, juste quelques nuages bas tenaces vers la Côte d'Azur ou vers le sud de la Corse. Et puis pour les températures, c'est un petit peu comme hier, 8 degrés à Essé, 8 degrés aussi à Metz, 9 à Lille et Paris, 11 à Brest, à Mulhouse, à Bordeaux, à Lyon, 18 degrés à Nîmes. Demain, le sud-est va garder un soleil voilé, puis ailleurs, ça sera à nouveau souvent gris, humide, avec des pluies plus continues, cette fois-ci du nord-ouest au nord de la Seine et un vent assez fort.
Élodie Calac de Météo France, merci à vous France Inter. Il est 13h24, de retour ici au lieu dit La Foucherie, entre Janzé et Essé, quelques dizaines de kilomètres au sud de Rennes.
France Inter, le 13-14, Marion Loup.
Nous sommes dans la campagne, quelques maisons de grands hangars. C'est l'exploitation de Charlotte Kerglono et Christophe Mélier. Une ferme moyenne, une soixantaine d'hectares et autant de vaches laitières. Des Prix Holstein blanches à taches noires. Elles sont là, hein, juste à côté de nous, dans les tables. Elles nous écoutent attentivement. Ces vaches, Charlotte et Christophe, les traitent deux fois par jour, le matin vers 7h et l'après-midi vers 16h. Nous avons assisté à cette traite-là, hier après-midi.
Allez bien, Grishka.
Donc je suis à la ferme, dans la salle de traite, avec Charlotte Kerglono. On entend le bruit des machines, là, autour de nous. Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu?
Des vaches font la queue, elles attendent. Quand elles rentrent sur le quai de traite, on nettoie le pis, en fait, avant de brancher, de mettre la machine à traire. Et on, en fait, le fait de nettoyer le pis de la vache, c'est pour que ce soit propre et qu'il n'y ait pas de saleté à aller dans le lait. Mais c'est aussi pour stimuler la mamelle et faire déclencher l'ocytocine.
Donc là, elles avancent toutes seules sur leur quai.
Oui.
Et vous avez qu'à brancher la machine, en fait.
C'est ça. Elles ont en général presque tout le temps la même place dans la salle de traite. D'elles-mêmes, c'est souvent les mêmes en dernière, les mêmes en première. Elles ont même souvent un côté qu'elles préfèrent ou plus qu'un autre. On peut dire en général qu'elles donnent entre 15 et 25 litres.
Et donc le lait va rentrer dans ces tuyaux qu'on voit là en dessous du quai.
Voilà. Et au bout, il y a une cuve où le lait arrive de chaque machine. Dès que cette cuve elle est remplie, ça va automatiquement dans le tank à lait où le lait est réfrigéré et descendu à peu près en dessous de 3 degrés en fait. Et notre lait est collecté tous les 3 jours.
Donc là, c'est le premier maillon ici de la chaîne de production du lait.
C'est ça. On est au début de la chaîne et on produit de la matière première, quoi, pour nos transformateurs et pour la population, quoi.
On vous retrouve en direct. Bonjour Charlotte Kerglono.
Bonjour.
Je précise que vous êtes aussi porte-parole de la Confédération Paysanne et vous nous accueillez donc sur votre exploitation d'essai avec votre associé Christophe Mélier. Bonjour Christophe. Toujours avec nous, Frédéric David, éleveur à Domagny, président départemental de la section lait de la FDSEA. Et bonjour, Olivier Mével, vous êtes maître de conférence en sciences de gestion à l'Université de Bretagne Occidentale.
Bonjour.
Alors Charlotte, on parlait du prix du lait tout à l'heure. Vous avez l'impression d'être la variable d'ajustement dans les négociations commerciales. C'est pour ça que vos parents ne voulaient pas vous voir faire ce métier d'éleveuse laitière?
Oui, c'est en partie pour ça, parce que c'est un combat qui est mené par les paysans depuis toujours. On est la variable d'ajustement. C'est toujours sur nous qu'on ajuste quand il y a un problème, quand il y a une baisse de prix. C'est toujours les paysans qui trinquent et donc qui disparaissent, malheureusement.
Et vous avez cette impression-là aussi, Frédéric David, que c'est effectivement sur les producteurs qu'elle se fait l'ajustement?
Oui, nous avons le même combat. Effectivement, le prix payé aux producteurs est insuffisamment élevé pour qu'on puisse continuer comme ça.
Et Olivier Mével, si on détaille, est-ce que c'est une réalité ce que disent ces deux producteurs laitiers? Ça se répartit comment la valeur sur le prix de la bouteille de lait que j'achète au supermarché?
Incontestablement, aujourd'hui, on a un problème, les comptes ne sont pas bons. Et donc, il y a certains maillons qui se servent plus que d'autres, effectivement, sur le dos des producteurs. Alors, il y a un maillon, effectivement, qui est tout de suite visible, c'est la grande distribution. Mais il y a aussi les industriels qui, aujourd'hui, guident le prix du lait. Et donc, je pense que dans le contexte actuel qui voit monter, effectivement, la matière grasse, qui voit monter la protéine de lait, avec un complexe beurre-poudre, c'est-à-dire, en fin de compte, ce qui fait vraiment le prix du lait conventionnel qui est au plus haut aujourd'hui, il conviendrait de ramener la juste part aux producteurs.
Alors, si on donne les chiffres, est-ce que vous pouvez me donner... Alors c'est quoi? C'est un tiers pour les producteurs? Vous sauriez me faire la répartition?
Aujourd'hui, quand on regarde clairement sur un litre de lait classique, la rémunération du producteur aujourd'hui à peu près 350, 360 euros les millilitres, c'est-à-dire 35 à 36 centimes. Or, vous avez le lait qui va se vendre dans certains cas à 83, 80 centimes. Mais il y aura aussi des promos. Et lors des promos, quelque part, c'est toujours aussi le producteur qui trinque dans le fond. Et donc, on est dans une situation où la marge de l'industriel, elle ne se fait pas que sur les liquides, parce que sur 1000 litres de lait, on fait aussi du beurre. On fait 45 kilos de beurre, on fait 80 kilos de poudre. Et donc, en fait, le beurre, c'est beaucoup plus important en termes de valorisation. Le fromage également. Le lait liquide, c'est seulement 15% de la consommation des ménages. Mais à côté de ça, les ménages vont engloutir 42% de la production laitière nationale. Mmh. L'export, ce sera 40%. Et donc, aujourd'hui, la vraie question, c'est de savoir aussi comment les consommateurs souhaitent-ils payer finalement leurs produits laitiers, pas que le lait.
Mais justement, ce qu'on a du mal à comprendre en tant que consommateur, c'est qu'on voit les prix, notamment le prix du beurre, qui augmente, et qu'en même temps, les producteurs de lait, eux, se retrouvent effectivement à se sentir comme des variables d'ajustement parce qu'on leur demande de compresser leurs tarifs.
On leur demande de compresser leurs tarifs. Et aujourd'hui, quand vous regardez sur la bio, tout à l'heure, Charlotte expliquait qu'elle était payée 420 euros les 1000 litres, alors que la bio était rémunérée aux alentours, finalement, de 550 euros les 1000 litres, il y a encore 18 mois. Donc, en fait, cette baisse de prix, elle se fait au détriment de Charlotte. Mais par contre, les prix des produits bio n'a cessé d'augmenter lui aussi. Donc, en fait, il y a là-dessus une absence de réalité. Il y a une forme d'impasse économique. Sur le conventionnel, c'est la même chose. Aujourd'hui, on va dire, toute charge confondue, le prix du lait conventionnel devrait être à 410, 420 euros les 1000 litres pour laisser aux producteurs une chance. Parce qu'ils ont des charges qui sont très importantes aujourd'hui.
Alors, vous parlez du bio, c'est peut-être une des solutions pour créer plus de valeur sur le lait, pour gagner un peu plus pour les producteurs. Christophe Mélier, vous êtes l'associé de Charlotte Kerglonou. Comment est-ce que vous avez décidé de passer en bio, justement? C'était vraiment une question de, on va se rémunérer un peu plus avec peut-être de meilleures conditions de travail?
Ben, c'est que c'est déjà, je suis ravi de vous accueillir sur la ferme. C'était pas forcément une fin en soi. Il se trouve que moi, je me suis installé sur la ferme en 2008, la ferme familiale. Charlotte nous a rejoint en 2011. Et moi, j'étais convaincu que la réussite passerait par l'augmentation du volume produit sur la ferme. Voilà, 2015 est arrivé.
Avec la fin des quotas laitiers.
Voilà, crise laitière liée à la fin des quotas. Voilà, trop de production.
Baisse des prix,
et là il a fallu réagir vite et fort, quoi. Et c'est là où, par les discussions avec des copains paysans, de l'accompagnement des réseaux, notamment CIVAM, l'ADAGE en Ille-et-Vilaine.
Une association qu'on va recevoir un peu plus tard, qui promeut ce genre d'agriculture.
Et là il a fallu réagir sur une évolution de système. Donc un accompagnement qui a été financé par de l'argent public, et qui a été une réelle réussite.
Alors combien? Si on fait les comptes,
c'est pas tellement forcément chiffrable en tant que tel, mais c'est surtout que naturellement on a cet accompagnement là passait par l'augmentation de la part d'herbe, diminution de la part de maïs
dans la nourriture des animaux,
sur la surface de notre ferme, et ce qui s'est traduit par baisse de l'utilisation des produits phyto, des engrais minéraux, et aussi donc amélioration de nos résultats, baisse de nos charges, et notamment baisse de la, tout en baissant la production sur notre ferme. Et là déjà on améliorait nos résultats, quoi.
Donc en fait ça a amélioré vos conditions de vie et de travail, voilà, de passer en bio, parce que vous vendez le lait plus cher.
Et donc du coup de revenus, quoi. Et c'était vraiment une franche réussite sur ces mesures là, quoi.
Mais ça suffit pas à vous y retrouver complètement, Charlotte Kerglonou. Aujourd'hui vous avez encore un manque à gagner, hein. C'est ce qu'on entendait dans le reportage de Kathleen Comte tout à l'heure.
Justement, l'année 2021 a été très compliquée. Et en fait, il y a un développement fort de la bio, mais il n'y a aucun accompagnement de l'État. Il n'y a plus de mécanisme de régulation ni de maîtrise des volumes. Donc, on est complètement abandonné dans un marché libéral où l'État ne nous regarde pas et ne s'inquiète pas de nous.
Et la consommation a baissé, la consommation de lait bio, c'est-à-dire que vous produisez un peu plus. Il y a plus de production bio en France, mais moins de consommateurs à ce jour.
Oui, parce que justement, les producteurs ont écouté la volonté de l'État, qui est de convertir de plus en plus de terres en agriculture biologique. Mais on n'a pas cherché le marché qu'il y avait en face. Et donc, on est une fois de plus abandonné.
En plus, les coûts augmente. Alors ça concerne pas que les exploitations bio,
ça concerne tout le monde.
Et
les agriculteurs restent les seuls chefs d'entreprise où nous, on n'a pas le droit de fixer à combien on a besoin de vendre notre prix. Tous les autres intermédiaires qui viennent après nous, eux, ils savent combien il faut pour rémunérer leur propre salaire, les gens qui travaillent pour eux, ils regardent leurs charges. Et pourquoi nous, on est encore en train de se battre pour ne pas imposer notre prix? Il y a des calculs. L'État a même demandé des calculs pour avoir le prix de combien ça coûte de produire un litre de lait et de rémunérer correctement les agriculteurs. Il y a des indicateurs qui existent et pourtant on ne les regarde pas.
Et à ce jour, on l'entendait dans le reportage, vous avez dû choisir entre vous payer et payer vos fournisseurs.
Tout à fait. Cette année, on a décidé de se prendre un salaire, mais du coup, on a beaucoup de retard dans nos factures. Et là-dessus, on est complètement abandonné. C'est à nous, mentalement, de gérer cette situation-là et d'assumer devant nos fournisseurs ce manque et le fait qu'on puisse pas les payer. Et du coup, c'est une charge mentale très difficile, alors qu'on ne revient pas du tout sur le métier. Enfin, le métier, on l'aime vraiment, notre métier. On ferait rien d'autre au monde que ce métier-là. Il en est pas question. On vit cette injustice-là et surtout on pense à l'ensemble des agriculteurs qui sont dans cette situation-là.
Olivier Mével, c'est vrai qu'on voit que c'est un marché vraiment particulier, effectivement, où les producteurs ne fixent pas eux-mêmes leurs prix.
Oui, aujourd'hui, les producteurs ne fixent pas leurs prix et peut-être aussi qu'il faut penser demain à ce que les producteurs reprennent en main, finalement, leur facturation. C'est un enjeu majeur aujourd'hui. Parce que Charlotte a raison de souligner qu'ils sont les seuls aujourd'hui à ne pas savoir combien ils vont être payés à la fin du mois.
Mais c'est envisageable ça dans un environnement européen, avec la politique agricole commune, qu'on redonne le pouvoir aux producteurs ?
Oui, aujourd'hui il n'y a aucune contre-indication européenne pour que les producteurs se remettent à facturer. C'est juste une question d'inversion aujourd'hui des flux, parce qu'aujourd'hui ils sont en bout de chaîne. Et en bout de chaîne finalement, on leur donne la part de la valeur ajoutée la plus faible.
Frédéric David, à la FDSEA, est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'effectivement, comme le disait Christophe Mellier tout à l'heure, le passage au bio, ça peut être une façon pour les producteurs de s'en sortir un peu mieux, en tout cas, de créer de la valeur?
C'était déjà une promesse, une promesse électorale, de changer notre alimentation, d'avoir un lien, de faire le lien entre la santé humaine et l'alimentation. Donc c'était un challenge que M. Macron avait annoncé. Aujourd'hui, on en était, c'est certainement une alternative, mais le conventionnel s'est bagarré pour montrer aussi qu'elle a ses valeurs. Moi, je suis d'accord avec le raisonnement de fond de Charlotte. Effectivement, on ne peut plus continuer à ne plus prendre en compte nos coûts de production. Et c'est bien pour ça qu'à l'Interpro laitière, nous avons créé des indicateurs. Et ces indicateurs, nous sommes là pour les faire respecter. Et c'est tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Nous allons vérifier les conditions générales de vente de nos industriels pour que ce soit inscrit noir sur blanc et validé par nos acheteurs de la grande distribution. C'est le combat que l'on mène actuellement et on a encore 15 jours pour le faire.
On parlait de la loi EGalim 2 tout à l'heure qui est censée garantir aux producteurs un revenu qui correspond à leur coût de production et à leurs conditions de vie. Comment on fait pour la faire respecter cette loi ?
C'est toute la problématique. Peut-on faire de l'économique avec des lois ? On est en Europe, on est conditionné par 27 pays aujourd'hui qui revendiquent leurs droits. Aujourd'hui, on a réussi à valider des lois EGalim 2, bien sûr, qui obligent de différencier la part payée producteur à la part des transformateurs. Et qu'aujourd'hui, on ne négocie plus la part agricole, seule est négociable la part transformateur. Donc à nous d'identifier qu'est-ce qui est la part du monde agricole et qu'est-ce qui est la part de la transformation.
Olivier Mével, est-ce qu'il y a des sanctions qui existent pour ceux qui ne respectent pas cette nouvelle loi EGalim ? Comment on fait effectivement pour garantir, parce que c'est vertueux de dire on va garantir les revenus des producteurs, comment on peut faire ?
C'est la question. C'est-à-dire que déjà dans la loi EGalim 1, c'est la loi de 2018, il n'y avait pas d'aspect coercitif. Et aujourd'hui, dans la loi EGalim 2, on est aujourd'hui dans la même situation. C'est-à-dire qu'il y a un recours à un médiateur, effectivement, possible. Mais derrière, la saisine du juge, on n'en a pas beaucoup. Donc en fin de compte, on a un rapport de force aujourd'hui. C'est ce rapport de force qu'on n'a jamais dissous. Et la remarque est bonne, à savoir, aujourd'hui, le législatif semble dominé par l'économique. Réponse, oui. Oui, tant qu'on n'aura pas dissous le rapport de force et organisé les producteurs, on aura toujours une dissymétrie dans le partage de la valeur ajoutée au détriment des producteurs.
Qu'est-ce que vous voulez dire par organiser les producteurs ?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une vision moderne de l'agriculture, il faut que les producteurs soient regroupés. Les éleveurs doivent être regroupés pour faire pendant la puissance de négociation de leur laiterie. Tant que ce ne sera pas le cas, tant que les organisations de producteurs ne seront pas juridiquement et commercialement assises sur une capacité à faire, on aura une dissymétrie, un rapport de force qui jouera toujours contre eux. Donc il est temps qu'on passe à cette vision moderne de l'agriculture. Et c'est ce qui manque à la loi EGLIM 2 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle s'est beaucoup trop intéressée à la deuxième négociation entre les laiteries et la grande distribution, et pas assez à la négociation entre les producteurs et leurs laiteries.
Mais parce que la négociation commerciale dont on parle aujourd'hui, c'est effectivement entre les transformateurs, les industriels et la grande distribution. Charlotte Kerglenou ou peut-être Christophe Mélier, quand Olivier Mével parle de se regrouper pour faire pression, ça vous inspire quoi ? Je sais pas, Charlotte peut-être ?
Je trouve ça complètement normal. Enfin, je veux dire, ensemble, on est toujours plus fort, ça c'est certain. Mais je pense vraiment que ça ne suffit pas sans un soutien fort de l'État. Parce qu'on est quand même dans un rapport de force très difficile. On est plusieurs agriculteurs avec des envies différentes. Et puis on est face aussi à des volumes importants. Et c'est très difficile de négocier quand il y a trop de matière, en fait. On est déjà dans un rapport de force qui est biaisé. Donc on peut s'organiser collectivement. Bien sûr, c'est important, mais ça suffira pas. Il faut que l'État nous accompagne et qu'il mette le point sur la table.
De quelle façon alors ?
En disant, nous, on veut surveiller de très près que les paysans soient rémunérés correctement. On veut que cette loi soit appliquée. Et puis, on doit aussi être là pour les accompagner quand il y a des années difficiles comme 2021, pour les aider. Monsieur Macron s'est promené un peu partout en France pendant sa campagne pour faire des chèques à tout va. Eh bien, il peut en faire aussi à l'agriculture et aux paysans.
Frédéric David de la FDSEA, d'après vous, les agriculteurs, ils se réunissent assez pour faire pression justement et peser dans ces négociations ?
Alors, pas suffisamment encore. Monsieur Mével l'expliquait, ils ne pèsent pas parce que on n'a pas la démarche commerciale. Aujourd'hui, on est en regroupement de producteurs pour effectivement additionner des volumes, mettre des volumes sur un marché et discuter avec son transformateur. Mais la reprise en main d'une facturation mettrait quand même beaucoup plus de poids. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord, mais on achète quand même. Et on est un prix fixé par la laiterie. Des opérations actuellement dans certains groupes industriels sont mises en place par des OP. Hein. Ils ont pris l'initiative d'aller devant un tribunal parce qu'effectivement, une absence d'accord ne veut pas dire une tacite reconduction du prix.
Il y a un système assez étonnant hein, quand on se penche un peu sur le dossier, c'est qu'il y a des coopératives qui payent les producteurs pour produire moins à ce jour.
Oui, alors ce sont des démarches individuelles de régulation de marché, on va nommer comme ça, parce que qu'est-ce qu'une l'objectif d'une coopérative, c'est quoi ? C'est valoriser au mieux la production de ses producteurs. C'est son symbole, c'est son devoir premier. Aujourd'hui, une régulation en interne est une cogestion globale d'une filière internalisé des producteurs, de la distribution, puisque en fin de compte aujourd'hui la coopération c'est des producteurs qui adhèrent à un schéma commun, donc c'est valorisé, donc réguler en interne c'est une cogestion intelligente certainement.
Vous aussi vous réclamez un soutien de l'État ?
Alors je vois pas tout à fait la même chose. Moi ce que je vois c'est qu'on est quand même en Europe on a une politique libérale, on est sur des marchés ouverts, des marchés européens, hein, il n'y a plus de frontières, donc on peut pas d'un côté demander un soutien de l'État et de l'autre côté aller sur un marché en Tchécoslovaquie ou en Pologne où on irait fleur au fusil en disant on a les meilleurs produits du monde.
Et où les règles ne sont pas les mêmes.
Donc je pense qu'il y a effectivement, là où on subit très fortement actuellement, c'est la baisse de la PAC. Politique agricole commune, effectivement, elle est en baisse. Des choix.
Elle est aussi réorientée sur les façons plus vertes de produire, principe en tout cas.
C'est une orientation, mais globalement, le budget est en diminution. C'est pas parce qu'on veut faire plus vert qu'on va avoir des enveloppes plus onéreuses. Non, aujourd'hui, il y a une réduction, une volonté, mais c'est la politique européenne. Il y a d'autres priorités certainement que l'agriculture, parce que effectivement, le marché libéral en Europe fait que l'agriculture doit s'auto-alimenter et se rémunérer. Malheureusement, on n'a pas les mêmes règles. Christiane Lambert le dit suffisamment.
La patronne de la FNSEA, de votre syndicat.
Le dit souvent, on réclame l'effet miroir. Les mêmes contraintes, les mêmes produits pour tout le monde.
Charlotte Kerglenou, est-ce qu'effectivement, vous le voyez, vous, cet effet de la politique agricole plus verte qui a été annoncée au niveau européen ?
Moi, je le vois pas vraiment, parce que dans les faits, finalement, par exemple, on va continuer à accompagner les conversions en agriculture biologique, mais on va pas accompagner le maintien, donc ceux qui sont déjà en place. Et nous, à la Confédération Paysanne, on pense pas qu'on a vocation à nourrir le monde. On pense d'abord qu'il faut... Il faut nourrir les gens qui nous entourent, mais la plupart des crises, c'est des crises de surproduction en agriculture, et ça, faut pas l'oublier en fait. Et on a encouragé les paysans à produire toujours plus en disant que c'était la solution. Et ça, nous, on n'est pas du tout d'accord avec ça. On préfère produire de la qualité et faire de la valeur ajoutée sur nos produits plutôt que d'essayer d'aller partout en fait.
Alors le prix et la question de la rémunération, ce ne sont pas les seules problématiques du monde agricole, un monde qui est un passage obligé, on le sait, pour les candidats à la présidentielle. Ils se pressent par exemple à chaque fois au salon de l'agriculture. Et ils ont des propositions, ces candidats, pour améliorer le niveau de vie des agriculteurs, les conditions de production, le bien-être animal parfois, mettre un terme aussi à l'hémorragie, moins 20% d'agriculteurs en 10 ans. Thomas Giraudot, vous êtes au service économie de France Inter. On fait un tour d'horizon de ces propositions avec vous.
Anne Hidalgo mise sur l'agroécologie, associer un meilleur revenu pour les producteurs et une agriculture moins polluante par la réduction progressive notamment des dépenses en pesticides. La socialiste veut interdire le glyphosate et les néonicotinoïdes dès son élection. Ce sera d'ici la fin 2022, côté Yannick Jadot, qui veut aussi soutenir la production plus verte en versant une sorte de chèque alimentaire ciblé à dépenser seulement pour ses produits. Jean-Luc Mélenchon compte, lui, instaurer un protectionnisme écologique, bloqué ou taxé aux frontières viande, fruits, légumes, qui ne respectent pas certaines normes environnementales. Emmanuel Macron parie sur les technologies dans le cadre de son plan France 2030, près de 3 milliards d'euros d'investissements numériques dans la génétique des espèces plus résistantes et dans la robotique des machines pour faciliter le travail des agriculteurs et réduire l'usage des pesticides. Des robots qu'on retrouve aussi dans le programme d'Éric Zemmour, avec chez le candidat d'extrême droite un autre objectif, celui d'embaucher moins de saisonniers, d'ouvriers agricoles étrangers. Marine Le Pen présentera, elle, son programme à la fin du mois lors du salon de l'agriculture. Enfin, à droite, Valérie Pécresse insiste sur les transmissions des exploitations. Elle veut réduire la fiscalité qui pèse sur ces transmissions et promet un complément de retraite pour l'agriculteur qui forme un jeune reprenant la ferme.
Merci Thomas Giraudot. Alors Olivier Mével, ces propositions, cette foire aux propositions, ça vous semble crédible? Plus ou moins selon les propositions peut-être?
Oui, parce qu'en fin de compte, j'aimerais clairement que les candidats se positionnent sur le prix. Parce que aujourd'hui, en agriculture et pour les éleveurs...
Pour vous, ça reste la problématique centrale.
Oui, bien sûr, le prix est la mère de toutes les batailles. Et aujourd'hui, quel que soit le syndicat, quel que soit finalement les candidats, il faut penser au prix. On parle de souveraineté alimentaire, il n'y aura pas de souveraineté alimentaire si on n'a pas le prix. Et aujourd'hui, quelle que soit la filière, le problème est le même. Donc j'aimerais bien que les candidats s'expriment clairement sur les prix et les solutions qu'ils proposent à court terme, à moyen terme, voire à long terme, sur un plan stratégique pour chacune des filières.
Et ça, vous ne l'entendez pas. Charlotte Carglenou, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être la robotisation, par exemple, les technologies, les OGM, les robots que propose Emmanuel Macron ou Éric Zemmour?
Bien sûr, il faut vivre avec son temps, mais je ne pense pas que la robotisation, ce soit le sujet. Chacun est maître sur sa ferme, justement, et fait les choix qui lui convient. Nous, c'est pas le choix qu'on a fait sur notre ferme et on sait que c'est pas en robotisant qu'on va avoir des meilleurs prix. Et quand j'entends ces propositions, je remercie vraiment France Inter d'être venue sur notre ferme parce que c'est comme ça qu'on comprend ce qui se passe vraiment. Et du coup, j'invite tous ces candidats à aller sur les fermes et parler avec les agriculteurs et avec les syndicats sur la réalité de notre métier. C'est pas des grandes annonces comme ça, c'est voir concrètement comment est-ce qu'il faut faire. Et donc, je vous remercie vraiment.
Donc, le prix, c'est ce que vous dites vous aussi. Hein.
Tout à fait.
Je me tourne vers vous, Loïc Guine. Vous venez de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éleveur à Saint-Marc-sur-Couesnon, président de la Chambre d'agriculture d'Ille-et-Vilaine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous êtes membre de la FNSEA? Est-ce que votre syndicat, par exemple, soutient déjà officiellement un candidat déclaré ou non?
Notre syndicat n'a jamais eu l'habitude de soutenir des candidats déclarés, et quel que soit le candidat d'ailleurs, c'est pas notre rôle. La FNSEA a un rôle de syndicalisme. Et moi, en tant que représentant Chambre d'agriculture, on est dans le même objectif, les mêmes démarches. On va observer les propositions des candidats. La FNSEA, en tant que telle, a fait des propositions ou a plutôt émis des souhaits. On va rester chacun dans son rôle.
Est-ce que vous aussi, le prix, c'est la problématique centrale ou il y a d'autres choses qui vous préoccupent?
Mais le prix est, je dirais, est un des sujets. Enfin, moi, je le vois comme ça. Effectivement, si vous n'avez pas de prix, vous risquez pas de faire de résultats, vous risquez pas de faire de revenus. Ça, c'est très clair. Maintenant, dans une exploitation, dans une entreprise, vous avez le prix de vente et puis vous avez, l'opérationnel, vos charges, le fonctionnement de votre entreprise, c'est un tout. Le revenu, c'est une addition, c'est des recettes moins des charges. Globalement, c'est ça. Mais je le répète, et Charlotte a raison, et Frédéric tout à l'heure le disait également, effectivement, si vous n'avez pas de prix, vous avez beau compresser les charges, à un moment, vous pouvez plus les compresser. Vous ne pouvez plus les compresser, et si vous n'avez pas le prix en face, vous ne ferez pas de revenus.
Alors, on disait, on entendait hein, dans l'explication de Thomas Giraudeau, une des problématiques, c'est de relancer les vocations, de mettre fin à la baisse du nombre d'agriculteurs. Les exploitants vieillissent et ils ont du mal à retrouver des repreneurs parce que le travail est trop pénible, trop critiqué. C'est pourtant indispensable, effectivement, pour conserver une autonomie alimentaire. Alors, malgré tout, dans la filière laitière, il y a plusieurs jeunes qui veulent se lancer. Kathleen Comte, vous en avez rencontré au lycée agricole de Théodore Monod, Heureux, près de Rennes. Ils ressemblent à quoi, ces futurs éleveurs laitiers ?
Eh bien, l'éleveur laitier de demain est jeune, motivé et passionné.
Depuis tout petit, je vis là-dedans. J'envisage aucun autre projet que celui-là.
Mais l'éleveur laitier de demain a surtout parfaitement conscience des défis qui l'attendent. Guillaume, 19 ans, fils d'agriculteur en deuxième année de BTS agricole.
Le monde agricole, c'est pas facile, il faut pas se le cacher. Aujourd'hui, la demande du consommateur devient de plus en plus rigoureuse. Il va falloir des jeunes pour pouvoir prendre la relève.
Et Mathis, 17 ans, est aussi au lycée agricole. Ses parents ne sont pas du métier, il l'a découvert tout seul et depuis, ça le passionne.
Ça me fait pas tant peur que ça. Je pense que c'est un métier comme un autre, ça s'apprend, mais il faut être motivé. À tout moment, on peut tomber, quoi. On peut se casser la gueule dans l'agriculture. Si on n'en a pas conscience, on fonce dans le mur. Il y a une véritable méconnaissance du monde agricole, alors que c'est un monde qui est tellement beau.
Tous les deux veulent des exploitations à taille humaine, modernes et surtout respectueuses de l'environnement.
C'est super important de faire attention à l'écologie, parce que même le consommateur veut ça.
L'agriculteur est en train de changer. Il y a un gros tournant de l'agriculture en ce moment, donc au niveau des techniques et technologies pour justement diminuer l'impact carbone.
Et puis l'éleveur laitier de demain veut aussi une vie en dehors du travail.
J'ai envie de fonder une famille, j'ai pas envie de me tuer dans mon travail, j'ai envie vraiment de profiter de ma vie et de vraiment adorer mon travail, parce que c'est un travail que j'adore pour l'instant.
L'élevage, métier passion qui attire un peu moins de jeunes. Au lycée agricole d'Ureux, on a bien vu la tendance se dessiner. La future génération se tourne désormais principalement vers le maraîchage.
Merci Kathleen. Je salue Juliette Blanchot du CIVAM 35 qui nous a rejoint. Le CIVAM, c'est une association qui porte un projet de développement de l'agriculture durable. Bonjour.
Bonjour.
Juliette Blanchot, d'après vos études, votre étude au CIVAM, pour 3 départs à la retraite d'agriculteurs, c'est une installation ?
Alors oui, c'est globalement une installation pour 2 à 3 départs. En fait, ça dépend des chiffres qu'on regarde, mais c'est ça environ. Voilà, c'est quelque chose, enfin c'est insuffisant du coup pour assurer le renouvellement des générations en agriculture.
Et c'est plus dur dans l'élevage, comme on l'entendait dans ce reportage.
Oui, exactement. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que du coup, il y a pas assez de fils et filles d'agriculteurs qui sont motivés pour reprendre la ferme des parents. On a un peu le retour, enfin ce que disait Charlotte tout à l'heure, les parents des fois encouragent leurs enfants, mais pas forcément. Et du coup, on n'a plus assez d'enfants d'agriculteurs pour reprendre les fermes. Donc l'idée, c'est de se tourner vers un public non issu du milieu agricole et de les encourager à venir vers l'agriculture. Ils viennent d'eux-mêmes, hein, notamment, enfin, ça s'accentue en plus depuis les confinements. Enfin voilà, les gens recherchent aussi un sens à leur vie. Donc,
et les néo-ruraux.
C'est ça, les néo-ruraux non issus du milieu agricole. Donc ils ont envie d'aller chercher des projets qui sont porteurs de sens, souvent en bio ou en tout cas en agriculture durable. Et c'est vrai qu'en fait, ils ne se tournent pas vers l'élevage et encore moins vers l'élevage de bovins lait parce que ça représente... Enfin, à leurs yeux, en tout cas, c'est des représentations, mais à leurs yeux, ça représente en fait l'agro-industrie, un temps de travail désastreint, un gros temps de travail, des gros montants d'investissement et un accès aux métiers, aux compétences qui est compliqué. On a quand même plus souvent des carottes dans son jardin qu'une vache laitière. Mmh. Donc c'est plus facile, on a l'impression que c'est plus facile de se tourner vers le maraîchage que vers l'élevage.
Et pourtant, on en a une éleveuse avec nous, Charlotte Kerglonou. Vous y êtes allée quand même, malgré tout ce que dit Juliette Blanchot.
Oui, moi j'y suis allée parce que justement c'est ce qu'elle dit Juliette, je connaissais déjà la vache en fait, je savais que j'avais pas peur de cet animal qui m'impressionnait pas, mais je comprends que quand on n'a jamais côtoyé de vache, que ce soit un peu plus compliqué. Mais justement, c'est aussi pour ça qu'ils ont mis en place un stage où les candidats viennent voir dans les fermes laitières en fait ce que c'est. Et je pense vraiment qu'une fois qu'on a vu comment ça se passait avec les vaches, et ben franchement, moi j'irais pas faire du maraîchage parce que je trouve ça beaucoup plus difficile que ce que je fais aujourd'hui. C'est très physique le maraîchage. Et du coup, c'est beaucoup d'idées reçues et le CIVAM permet aussi de casser ces idéaux ou ces stéréotypes, quoi.
Christophe Mellier, votre associé, est encore à côté de nous. Est-ce que c'est important d'avoir un associé pour pouvoir justement mieux avoir des meilleures conditions de travail sur des élevages, et que ce soit peut-être un peu moins compliqué? Est-ce que pour se lancer, c'est un déclic aussi?
Bah, bien sûr. Enfin, je pense que quand on travaille à plusieurs, on est beaucoup plus fort. Mais ce qui est important, c'est d'avoir la taille de ferme qui correspond à notre capacité de travail. Ça, c'est primordial. Si on a un outil trop gros par rapport au travail qu'on est capable de fournir, on n'y arrive pas. Nous, on préfère avoir moins d'animaux, mais pouvoir les connaître tous et avoir le temps de bien s'en occuper, parce que c'est comme ça aussi qu'on tient mentalement et qu'on est satisfait du travail que l'on fait.
Loïc Guin, comment est-ce qu'on remédie à cette crise des vocations qui était évoquée dans le reportage?
Il faut partir un peu en arrière, parce qu'effectivement, là, on a l'impression que ça s'accentue, mais je dirais, depuis l'après-guerre, à toutes les générations, je dirais qu'on a eu quelque part des pertes de candidats. Dans toutes les familles, tous les enfants ne venaient pas agriculteurs ou agricultrices, il y en avait quelquefois un, mais comme on partait d'un nombre très important, ça ne nous a pas donné cette impression de perte. Sauf que là, forcément, là, on a l'impression que ça s'accentue, parce que nous sommes déjà moins nombreux. Voilà. Alors maintenant, il faut aussi que nous, la profession, on envoie des messages positifs, parce que effectivement, en début d'émission, vous avez beaucoup parlé du prix, du manque de prix. Néanmoins, on a des exploitations et on a des éleveurs, notamment des éleveurs, parce que c'est le sujet de ce matin, qui gagnent, je dirais, correctement leur vie. Alors, avec un prix supérieur, ils gagneraient normalement bien leur vie, je veux dire. Mais après, souvent, ce sont des métiers de passion, ce sont des métiers en plein air. Je veux dire, c'est pas des métiers plus durs physiquement, plus durs mentalement que d'autres métiers. Et c'est en ça qu'il faut qu'on encourage la jeunesse. Il faut qu'on aille dans les écoles, déjà dans les collèges. Il faut qu'on sensibilise les élèves. Il faut qu'on sensibilise les profs aussi. Et dans des écoles, il y a des écoles qui peuvent, ce que je veux dire peut surprendre, mais les écoles d'ingénieurs agro. Allez leur parler d'agriculture, allez leur parler aux élèves d'un projet d'installation. C'est pas pour le moment, c'est pas le moment pour eux. Donc il y a un moment, il faut aussi les laisser aller voir ailleurs.
Mais en ce moment, alors il y a beaucoup de reconversions quand même. Il y a un petit phénomène dont
il y a un petit phénomène. Alors si vous sur le département, enfin je vous coupe, mais sur la Bretagne par exemple, effectivement 2021, on a vu davantage de jeunes arriver qui avait une réflexion d'agriculture, je dis bien une réflexion d'agriculture, ça pouvait être chef d'entreprise, je dis chef d'entreprise, enfin exploitant agricole si on veut, quelle que soit la production, ou aussi salarié. C'est une chose, et on voit bien là, grosso modo, on va faire sur la Bretagne sans installation de plus que les années précédentes. Donc on va voir si tout ça continue, mais je pense qu'on a... On a une part de responsabilité dans la promotion de nos métiers.
Pour clore cette émission, avant de quitter la Bretagne, on change de décor pour découvrir une autre spécialité locale de la communauté de communes, de la Roche-aux-Fées, pas le grand dolmen qu'on peut aussi visiter dans les environs, mais les Fab Labs accessibles moyennant adhésion. Il y en a deux par ici, un troisième doit ouvrir bientôt. Les Fab Labs Kézako, réponse dans ce reportage de Sarah Guibaudot.
Alors sur votre droite, vous avez plusieurs imprimantes 3D qui permettent à nos usagers d'imprimer des objets en plastique.
Antoine Tabé, vous êtes le directeur du Fab Lab de Janzé. Expliquez-nous d'abord ce qu'est un Fab Lab.
Fab Lab, en fait, c'est pour l'acronyme en anglais Fabrication Laboratory. En français, donc un Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication. Plus précisément, c'est un laboratoire de fabrication numérique. C'est un lieu, concrètement, dans lequel on met à la disposition du public des machines assistées par ordinateur pour fabriquer plein de choses.
Alors, qu'est-ce que les gens viennent fabriquer ici avec ces imprimantes 3D ?
Alors ici, étant donné qu'on est sur un Fab Lab professionnel, on va travailler avec des ingénieurs recherche et développement, par exemple, ou avec des entrepreneurs qui souhaitent créer des prototypes, qui souhaitent ensuite commercialiser. Ou alors, il y a des personnes qui viennent aussi simplement réparer des objets du quotidien. Je pense à un bouton d'une machine à laver qui est cassé. Eh bien, on va apprendre aux gens ici au Fab Lab à dessiner en 3D ces objets-là pour pouvoir ensuite les réimprimer en 3D.
Bonjour Gaëtan Bourré.
Bonjour.
Vous êtes auto-entrepreneur. Qu'est-ce que vous venez faire ici au Fab Lab ?
Alors, je viens de finir mes études en ingénieur électronique. Je viens au Fab Lab pour concevoir des malles d'escape game qui regroupent une aventure ludique.
Alors, je vois justement sur la table, vous nous avez amené une malle en plastique. Est-ce qu'on peut l'ouvrir ?
Alors, dedans, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer à un jeu de type escape game. Une structure faite à base de bois qui est découpée grâce aux machines du Fab Lab, donc notamment la découpeuse laser, qui va pouvoir accueillir des systèmes électroniques où on va être accompagné par des voix, par des mécanismes, par de l'audio, du visuel, avec des énigmes, de la manipulation, de la fouille, comme on pourrait retrouver dans un escape game physique, mais cette fois-ci miniaturisé dans une malle à la maison.
Ici, on est sur un territoire qui a une pénurie de main-d'œuvre assez importante au niveau des industries, au niveau de l'artisanat, au niveau des métiers manuels de manière globale. Et donc, le fait de pouvoir proposer un atelier de fabrication numérique, un espace de fabrication numérique pour les jeunes du territoire, et moins jeunes d'ailleurs, eh bien, ça leur permet de les mettre en appétence sur des métiers, voire des formations qu'ils n'imaginaient pas faire. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que les Fab Labs sont nés sur le territoire. Et en 6 ans, on a déjà l'exemple de plusieurs jeunes qui ont pu justement s'orienter vers des filières techniques parce qu'ils ont découvert et ils ont découvert cette passion et cet intérêt pour le numérique grâce au Fab Lab, entre autres.
Merci à Sarah Guibaudot pour ce reportage et pour la rédaction en chef de cette émission, attachée de production Claire-Sophie Collet. Merci à toute l'équipe de ce 13-14 ASC, Benjamin Chauvin, Alexandre Martin, Georges Thau et David Abécassis. Merci à tous nos invités et surtout à Charlotte Kerglenou et Christophe Mélier pour leur accueil ici à ASC. Vous pouvez retrouver l'émission en images sur notre site franceinter.fr.